Chers frères et sœurs, on peut se demander, la sainteté, c'est quoi ? Est-ce que c'est une performance ? On essaye d'exceller ? Ça n'est pas faux. Est-ce que la sainteté, ce n'est pas plutôt le don de sa propre sainteté que Dieu fait à chacun d'entre nous ? Autrement dit, la sainteté, c'est l'accueil de la grâce. C'est vrai. Mais j'aimerais aujourd'hui la contempler sous un autre angle. La sainteté, c'est la réponse que Dieu donne à notre monde à chaque époque. C'est la parole que Dieu donne à notre monde et cette parole dont il a besoin. Et bien d'abord, la sainteté dans son origine, c'est le Christ. Le monde a besoin de salut. Dieu envoie sa parole. Il est le Saint, le Christ au milieu de nous. Celui qui sanctifie, celui dont le regard illumine toute chose. Mais cette mission du Christ, elle va se continuer. Le Christ arrive en Israël, à un tout petit pays, et ça doit rayonner. Alors de quoi a besoin l'Église, de quoi a besoin le monde ? D'apôtres. Et c'est la sainteté des apôtres. Ce charisme est extraordinaire. Qu'est-ce que vous voulez, il n'y a pas deux saint Paul dans l'histoire de l'Église. C'est un zèle, un courage surhumain, il faut vraiment le dire. Parce que voilà, c'est la sainteté dont un monde qui ne connaissait pas le Christ avait besoin. Alors permettez-moi de parcourir un peu ces étapes, cette histoire de la sainteté qui est intéressante. Au premier siècle de notre ère, c'est l'Empire romain. Et on ne se représente pas ce que c'était que l'Empire romain. La somme de cruauté, de débauche, quand l'Empire est finissant, les orgies, les cultes idolâtres qui sont des cultes à Satan, comme dit l'Écriture. De quoi a besoin le monde à cette époque ? D'une immense purification. Et ça va être les ascètes. Ils vont partir au désert. Pourquoi vont-ils partir au désert ? Pour gagner la solitude ? Pour faire des exploits ascétiques ou vivant sur des colonnes, etc. On connaît tous un peu ces bizarreries de la sainteté des premiers temps. Non. Ils vont au désert pour lutter avec le démon, avec les démons, et les ayant vaincus, les renvoyer en enfer. C'est un grand exorcisme qu'il s'agit dans les premiers temps de l'Église. L'Église avait besoin de cette sainteté-là. Et puis permettez-moi de sauter quelques siècles. Comme exemple, allons au XVIIe. Qu'est-ce que c'est que le XVIIe siècle en France ? C'est une immense misère morale et matérielle. Matérielle peut-être plus encore. Les paysans qui ressemblent à des bêtes, nous dit la Bruyère dans un de ses textes fameux, à force de travaux tellement inhumains. Une grande misère intellectuelle. Eh bien, quelle sainteté va susciter Dieu pour ce monde ? Un saint Vincent de Paul, la charité. Il faut organiser la charité, nous dit-il. Il faut former les prêtres qui sont ignorants. Terminons notre petit tour d'horizon. Passons au XIXe siècle. Le XIXe siècle avec ses relents jansénistes, obnubilé par ce verset, beaucoup d'appelés, peu d'élus, le petit nombre des élus, l'angoisse de la damnation perpétuellement. Eh bien, Dieu suscite la petite Thérèse. C'est la confiance, et non pas la peur, sous-entendu, c'est la confiance et rien que la confiance qui nous mènera à l'amour. Voilà la parole à chaque fois que Dieu dit pour faire revivre le monde. Et je me disais, et aujourd'hui, Quelle parole Dieu veut-il adresser à notre monde par la sainteté qu'il veut susciter? Je pense que cette question, elle est posée à chacun. Parce que Dieu veut nous renvoyer à notre responsabilité. Toi, quel contact as-tu avec ce monde loin de Dieu? Que peux-tu lui apporter? Quelle est ta responsabilité? Le pape François nous a ouvert la voie. Il a écrit un magnifique texte que je vous recommande chaudement qui s'appelle, pardon, c'est en latin, toujours les premiers mots, Gaudete et exultate. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Où il dit, voilà, la sainteté pour notre temps, c'est ça. C'est ça dont notre monde a besoin. Voilà, alors, quelle est la soif de notre monde? Quel est son cri? On sait bien que le monde, même s'il ne veut pas toujours se l'avouer, attend beaucoup de l'Église. Et l'onde de choc qu'a provoqué la remise de rapport de la SIAZ est comme, si vous voulez, l'écho inversé de cette attente. Et donc, il faut voir comment nous pouvons y répondre. Que chacun fasse donc ce travail d'analyse pour essayer de voir, il me semble que c'est ça, dans son propre cœur. C'est intéressant aussi, ça veut dire qu'on a un regard qui essaie de comprendre notre monde, comprendre ses beautés, ses failles. On ne peut pas être un peu dans notre bulle en disant, il y a le monde et puis il y a nous, puis voilà, tout va bien. Non, avoir ce regard attentif d'un vrai diagnostic, nous sommes tous un peu médecins de notre monde. Parce que sinon, on ne serait pas chrétien. Nous partageons ce charisme du Christ médecin. Voilà. Alors, permettez-moi, c'est mon diagnostic, mais encore une fois, je renvoie chacun pour qu'il puisse faire le sien. Notre monde a sans doute besoin, et les événements récents nous invitent à aller dans ce sens-là, de pureté. Un mot qui n'est pas à la mode. Pureté des intentions. Pureté des sentiments, pureté des gestes, des paroles. Chacun dans son état de vie, les époux à l'intérieur de leur foyer, les jeunes dans leur manière de croître, dans la limpidité, les consacrés et les prêtres qui ont, pour beaucoup d'entre eux, failli à cette mission. Eh bien voilà, l'appel est d'autant plus pressant. Pourquoi notre monde a besoin de pureté? Parce que qui est pur voit Dieu. Et c'est la soif du cœur de l'homme de voir Dieu. Bienheureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Et pourquoi notre monde a besoin de notre pureté? Parce que celui qui est pur, il purifie. Souvenez-vous de Jeanne d'Arc. Au milieu de la soldatesque si grossière. Sa limpidité faisait disparaître tout désir grossier de la part des soldats. Elle élevait leurs âmes par sa simple présence. C'est notre mission dans un monde qui s'abîme dans une sensualité qui n'est pas de bon aloi. Deuxième point peut-être, de cette sainteté dont notre monde a particulièrement besoin aujourd'hui, selon ce que je peux analyser, eh bien, c'est de notre espérance. Notre monde est triste. Vous le savez bien, la première cause de mortalité des 15-25 reste le suicide. Alors, nous avons le défi de lui apporter une espérance. L'espérance qui n'est pas un optimisme béat. On va regarder le malheur du monde, le mal du monde tel qu'il est, mais on va se souvenir de deux choses. Que l'espérance est toujours un désespoir surmonté. Ça n'est pas naturel. Surmonté par quoi? Deuxième chose, surmonté par le don que Dieu nous fait de sa présence en nos cœurs, qui est l'Esprit Saint. Dans le cœur du chrétien, il y a un petit bout du ciel. Saint Paul appelle ça les arts de l'Esprit Saint. Ce petit bout du ciel, c'est du roc. Il ne doit pas s'en aller. Si les chrétiens perdent l'espérance, c'est vraiment le sel qui se dénature. Ils ne sont plus bons à rien. C'est notre défi. Il y a aujourd'hui un martyr de l'espérance. Quand le monde tout entier désespère, le chrétien, malgré sa pauvreté, sa misère, tout ce qu'on peut dire, il est l'homme de l'espérance. Et le pape nous le redit, ça peut aussi aller avec un certain sens de l'humour. Notre monde va mal, mais si j'arrête d'avoir un sens de l'humour, ben, ça n'arrange rien. Troisième point, qui est peut-être particulièrement d'actualité et qui est un peu une nécessité pour nous. L'Église aujourd'hui, elle est pauvre de sa propre sainteté. Du coup, elle est humiliée. Oui, humiliée. Elle l'a bien vu, elle n'est pas meilleure que le monde et parfois elle est pire. Alors, faisons-en une occasion positive. Est-ce que ça ne nous rapprocherait pas un peu du monde, cette affaire-là, au bon sens, au sens que nous nous sentons davantage solidaires de la misère du monde dans lequel nous sommes, sans y céder, bien sûr, vous avez compris. Occasion pour abandonner une suffisance, une arrogance parfois. Vous savez que c'est parfois un peu le défaut qu'on peut adresser aux chrétiens. Voilà, cette Église qui soit plus humble, plus modeste, mais absolument confiante dans le don que Dieu lui fait. Parce que si elle n'est pas meilleure, elle a beaucoup reçu, et elle a reçu beaucoup plus que le monde, puisqu'elle a reçu le Seigneur dans sa parole, dans ses sacrements. Et à ce moment-là, l'Église comprendra que ce don qu'elle a reçu, elle doit le mettre au service de ceux à qui elle s'adresse. Elle doit devenir cette Église servante toujours davantage. Voilà, frères et sœurs. La sainteté, eh bien, c'est notre mission. Et si j'ose dire, c'est notre dette. C'est une dette, la sainteté. Parce que quand on a reçu, on doit redonner. Donner à Dieu. Une dette à Dieu, certainement, mais dette aussi à notre monde. Et j'aimerais, pour terminer, évoquer cette figure de sainteté assez nouvelle, telle que l'a évoqué le pape François, les saints de la porte d'à côté. Mon voisin, c'est peut-être un saint. En tout cas, il a des traits de sainteté dont je peux me nourrir, qui peuvent m'édifier. Mais voyons l'inverse aussi. C'est que moi aussi, pour mon voisin, je dois être un saint. Parce que qu'est-ce que c'est que la porte d'à côté? C'est celle à laquelle je peux frapper pour demander du pain, pour demander Dieu, pour demander sa lumière et sa pureté. Voilà ce que je dois pouvoir offrir. Alors si j'ai pas envie d'être saint pour moi-même, je dois l'être pour les autres. C'est une grande nécessité. Oui, à ce moment-là, nous serons cette parole que Dieu peut adresser à notre monde. Notre frère Gustavo, qui est reparti en Argentine, aimait dire beaucoup cette phrase-là. Souviens-toi que ta vie est peut-être la seule page d'évangile que ceux qui vivent autour de toi pourront lire. Eh bien, en demandant à la Vierge Marie qu'elle nous accompagne dans cette démarche de vérité pour éliminer tous nos à peu près, dans cette démarche de service joyeux pour notre monde.